Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Affût. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir dans Poulain Affût. Vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un peu partout, hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture et même du côté d'Agen quand il y a du wifi et quand il n'y a pas d'embouteillage. On vous expliquera un peu plus tard pourquoi. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour. Un chiffre quand même, un petit indice pour vous permettre de l'identifier immédiatement. 111, un invité qui pèse lourd, Raph.
Ouais, voilà. Donc en fait, le portrait que je vais faire, tu as déjà balancé le dossier. Mais c'est pas grave, je vais quand même y aller, quoi. Hein, allez. On se souvient tous de l'endroit où on était à des moments marquants de l'histoire. Parfois, ce sont des dates comme le 12 juillet 1998. Parfois, ce sont des instants éphémères qui se gravent pour l'éternité. Moi, c'était un lieu en Italie, à Rome, Piazza Navona. Je viens de finir mes pastas, ma pizza et mon café et je m'apprête à rejoindre le stade. Et au détour d'une fontaine, Philippe Sella. Pour la première fois de ma vie, je rencontre l'un des deux joueurs qui m'ont fait aimer le rugby, l'autre étant Jean-Luc Sadourny. L'espace d'un instant, je repars dans mon salon avec mon père et je revois ses actions, les stats, ce joueur magnifique, racé, athlétique, gaillard, légendaire, quoi. Philippe, c'est 111 sélections, comme tu l'as dit Arnaud, c'est 30 essais, c'est surtout un club, le SUA, avec lequel il soulève deux boucliers. Philippe, c'est là ses 3 Coupes du Monde, une Coupe d'Angleterre avec les Saracens en 98, bordel, je suis arrivé en 99, à un an près, on a failli jouer l'un contre l'autre, Philippe, quand même. En plus de 20 ans de carrière, Philippe a marqué plusieurs générations et reste viscéralement accroché à Agen encore aujourd'hui. Comme je le disais en introduction, on se souvient tous de moments marquants. Eh bien, il y a 31 ans, en 90, Philippe faisait partie de l'équipe qui avait gagné pour la dernière fois en Australie. La nouvelle génération vient de recréer l'exploit face aux Wallabies. Alors, qui de mieux que Philippe pour nous faire un petit débrief de ce match et de nous donner sa vision du rugby actuel et de l'équipe de France, lui qui a porté le maillot de tricolore tant de fois. Nous sommes ravis, vraiment, Arnaud et moi-même, de te recevoir, Philippe, dans notre émission Poulain Raffut. Salut Philippe.
Salut tout le monde.
Ça va,
Philippe, ça va. Je vois qu'il y a la pêche quand même. Hein.
Alors Philippe, pour les gens qui ne le savent pas, voilà, était dans les embouteillages à Agen, comme quoi tout peut arriver dans ce monde.
Ça arrive, rarement, mais ça arrive.
Ça fait du 14e. Philippe, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu étais parmi les derniers joueurs français à avoir gagné en Australie. C'était en 90, comme je le disais. On t'imagine quand même heureux de cette victoire française 31 ans après, surtout 6 jours après une défaite, encore une défaite qui était un peu plus qu'encourageante quand même.
Ah oui, elle était encourageante, elle était même très frustrante, la défaite de la dernière rencontre, puisqu'elle s'est passée dans les arrêts de jeu, quoi, en gros, avec un ballon qui n'a pas été maîtrisé suffisamment. Et finalement, il y a eu une très belle réaction, parce qu'on ne sait pas comment peut réagir une équipe quand il y a une défaite comme ça, cruelle. Hein. Et donc, on a vu une très belle équipe de France qui a beaucoup défendu, qui a très bien défendu. Il y a eu quelques plaquages manqués, mais globalement, l'organisation était très bonne et parce que l'Australie a eu beaucoup de ballons. Et ils ont joué comme sur le premier match. Ils ont animé énormément. Ils ont beaucoup couru avec le ballon. Et ils ont essayé, ils ont été même un peu gourmands, je trouve, par moment, puisqu'ils ont essayé de marquer des essais. Et au lieu de taper ou de tenter quelques pénalités par moment. Puis à l'arrivée, bon, il y a un score serré, mais la France a gagné. Et elle a su maîtriser ses dernières minutes. Parce que la France a quand même dominé l'ensemble de la rencontre sur le score, je parle. Hein, autant l'Australie a eu beaucoup de ballons et a bien joué, mais face à elle, elle avait cette défense donc, bien organisée. Mais pendant la plupart de la rencontre, la France était devant. ils ont été opportunistes, ils ont été surtout très réalistes. Et quand ils ont eu des ballons, on a vu une équipe qui savait jouer aussi au ballon dans des jeux, registres qui pouvaient être différents. Voilà. Et on a vu quand même, pour finir, à quelques minutes de la fin, l'Australie qui repasse devant. On se dit, le scénario, il va peut-être revenir. Et puis finalement, non, il y a eu une meilleure maîtrise de la France sur les dernières minutes, notamment une très belle mêlée qui a permis à la France d'avoir une pénalité qui est passée entre les poteaux et qui a permis à la France de repasser devant. Et une dernière action où il y a une pénalité aussi pour la France parce que l'Australie, gardant le ballon, essayant de marquer à nouveau, de mettre à la faute les Français, mais il y a eu un bon ballon récupéré sur un ruck. Et voilà. Donc, une équipe de France qui a eu une pénalité, qui n'a pas voulu aller en touche, qui a préféré jouer à la main pour dégager ensuite en touche directement. Et ça a été la victoire.
Philippe, on sent vraiment très heureux hein, de cette victoire de l'équipe de France. Tu le soulignes, hein, cette équipe de France, elle a mené de bout en bout. Elle a été menée au score uniquement entre la 75e et la 77e minute. C'est les deux minutes seulement où l'Australie a mené au score devant l'équipe de France. Moi, je voudrais revenir, toi, l'ancien trois-quarts centre de légende. Quand tu vois une paire de centres, Danty, Vincent, Jonathan Danty et Arthur Vincent, 40 plaquages à eux deux, 25 pour Arthur Vincent, 15 pour Jonathan Danty. Quand on voit Jonathan Danty, avec sa puissance, venir sur cette dernière mêlée, pousser en troisième ligne et remporter une pénalité avec son paquet d'avant, j'imagine qu'il y a un peu de fierté dans la tradition des trois quarts de légende du 15 de France, non ?
Oui, mais c'est un signe aussi. C'est un signe pour toute l'équipe de France, pour le rugby. C'est agréable de voir des joueurs qui sont très investis, qui bougent beaucoup, qui bougent énormément quand l'équipe n'a pas le ballon, hein, puisqu'elle a énormément défendu et bien défendu. Et donc, cette organisation a été efficace. Et même s'il y a quelques plaquages manqués, je veux dire que les Australiens ont été égal à eux-mêmes dans le registre offensif. Alors, ils ont eu quelques maladresses, c'est vrai, mais quand même, bon, ils ont essayé de porter au maximum le ballon, d'animer, de mettre de la vitesse pour dépasser les Français et l'organisation défensive des Français. Mais ils n'y sont pas arrivés. Globalement, la France a plutôt bien maîtrisé tous ces moments où elle n'a pas eu le ballon. Ça veut dire que les joueurs, tu parlais de Danty, tu parlais de la paire de centre, Vincent, mais devant les deuxièmes lignes, la troisième ligne, il y a des deuxièmes lignes. Enfin, tous les joueurs étaient concernés pour défendre, pour courir, pour se déplacer et pour plaquer. Tu vois, ça a été… mais sur le dernier match, on l'avait vu aussi. Hein, c'est quelque chose… Que l'on voit sur les rencontres, cette équipe de France, elle est concernée. Et il y a des joueurs qui sont vraiment disponibles dans ce jeu. Et là, je parle plus du jeu des défensifs. Sans ballon, c'est plus difficile de jouer sans ballon qu'avec le ballon. C'est quand même mieux d'avoir le ballon. On se fatigue moins quand on a le ballon. Et j'avais peur quelque part, c'est qu'avec le temps qui passait, ces Australiens qui jouaient beaucoup avec le ballon fassent essouffler en fait, les joueurs français. Mais non, jusqu'à la dernière minute, ils ont été plutôt efficaces. Il y avait un peu de stress à la fin, mais l'équipe française, tu as noté cette mêlée où il y a effectivement des changements, l'impossibilité de refaire rentrer un joueur qui était sorti pas sur blessure. Hein. Et donc, c'est ces règles qui sont un peu différentes dans les règles nationales ou internationales. Ça a provoqué un moment un peu particulier. Mais ils ont fait le job, quoi, comme on dit dans notre jargon. Quoi. Et effectivement, il y avait du bonheur. Et il faut le comprendre, ce bonheur. Parce que ça fait longtemps. Déjà, une victoire, c'est bon. Quoi. Et puis, y avait le temps qui passait et y a une équipe de France, en fait, on l'a vu dans le courant depuis l'an dernier, elle gagne souvent.
Et ça fait du bien moralement. Et ce qui est difficile, en fait, maintenant, dans la tête aussi, peut-être qu'il faut poser dans la tête du sélectionneur, des entraîneurs, du manager. On sait que quand tu es très investi, notamment à Agen, ça va être compliqué. Quand ça gagne avec cette génération qui est en train d'arriver, de voir que ben, la paire, en fait, qui est normalement titulaire, qui est Ficou, Vakatawa, est un petit peu remis en question. La hiérarchie bousculée, mais pas qu'à ce niveau-là. Tu as parlé aussi de la troisième ligne, au niveau des piliers aussi. Dembabamba a montré quand même un gros investissement. Ça doit être compliqué quand même dans la tête des sélectionneurs. Comment on peut l'imaginer quand tu es à la tête d'un club ou en tout cas à la tête d'une équipe et de voir que, putain, avec cet effectif-là, c'est plus 30 joueurs que tu as, c'est 50, 60, et que les mecs qu'on annonçait justement être les 3e, 4e couteaux, en fait, ben, ils montrent qu'ils peuvent gagner contre l'Australie.
Non, mais ce qui est agréable, c'est de voir qu'avec les changements qui ont eu lieu entre les deux matchs, entre ben, les phases finales, les finalistes qui n'ont pas pu venir, il y a un potentiel qui est important. On a connu cette équipe de France des moins de 20 ans, championne du monde pendant 2 ans aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel et une prise de conscience certainement dans l'organisation, la mise en place et aussi le comportement à avoir sur cette préparation et ces matchs de très haut niveau. C'est vrai que c'est peut-être une génération, comme tu dis, qui est là. Et cette concurrence, elle doit apporter qu'un bonheur complémentaire et supplémentaire. C'est-à-dire que c'est une concurrence qui va amener normalement une volonté de performance pour jouer en équipe de France, mais de faire plus, de faire mieux. C'est d'aller chercher là où le joueur n'est pas encore suffisamment efficace. C'est de s'appuyer encore plus sur ses points forts pour être déterminant dans les différentes rencontres. Je pense que la concurrence apporte beaucoup de bien dans une équipe. Il faut qu'elle soit saine, évidemment. Ça, c'est le côté humain hein, qui est important dans un groupe, dans un collectif. Et bien sûr, c'est un casse-tête pour le sélectionneur, pour les coachs. Mais c'est un bon casse-tête parce que il peut y avoir des déceptions. Et même un sélectionneur, un entraîneur, il faut qu'il soit ferme. Et en même temps, il y a les sentiments, ils existent, quoi. Donc, ce sont des situations qui peuvent être plus compliquées. Mais si tout est fait dans la règle, en étant juste et compréhensif et explicatif, ça, c'est une richesse d'avoir un peu plus de joueurs capables et titulaires, on va dire, de l'équipe de France. Donc, il ne faut pas qu'on aille trop vite d'amener trop vite des conclusions. Mais ce qui se passe là, les joueurs qui jouent, ils prennent des décisions. Ces décisions, c'est de dire « j'existe, je suis là et je suis capable ». Et ils le prouvent. Et l'ensemble des joueurs, quand on voit, il y a un groupe qui amène une dynamique, qui amène du mouvement. Cette participation, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Dans le sport, c'est ce qu'on souhaite voir et on le voit. Et quand on le voit, évidemment, ça fait plaisir.
C'est un vrai problème de risque, non, Philippe? On a le sentiment que, tu l'as souligné, on a une double génération championne du monde des moins de 20 en 2018 et en 2019. Mais il y a aussi peut-être tout le travail qui est fait hein, dans les clubs. Tu es bien placé pour le savoir. Je crois qu'Agen a été classé meilleur centre de formation il y a un an ou peut-être même encore cette année. Il y a aussi le travail de la Ligue qui avait imposé ce quota de joueurs GIF, où on a contraint finalement un peu les clubs à faire jouer de plus en plus de jeunes joueurs français, en tout cas issus de la formation française, en top 14 ou en pro D2. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, tout ça génère un réservoir français qui n'a jamais été aussi grand.
Oui, c'est, je pense que tous les clubs font des efforts. On a été classé 2 fois premier, 1 fois 2e, 1 fois 3e dans les 4 dernières années. Ça va être de plus en plus dur. À Agen, on le sait, il va falloir qu'on fasse encore un peu plus d'efforts soit dans cet accompagnement, dans les doubles formations, mais tous les clubs se sont vraiment mis dans un travail pour que les jeunes joueurs français puissent avoir les meilleurs accompagnements possibles pour développer toutes leurs compétences et avoir cette double formation aussi, qui quelquefois a pu être oubliée. Mais aujourd'hui, cet accompagnement, il est de mieux en mieux. Et c'est vrai qu'il y a un ensemble de clubs qui permet à plein de jeunes de pouvoir jouer assez rapidement au plus haut niveau. Tu vois, nous, on n'attend pas, il n'y a pas d'âge pour jouer au plus haut niveau, en fait. Si le joueur a des qualités, s'il le prouve dans sa catégorie, qu'il est capable, qu'il a cette détermination, qu'il a des capacités techniques, qu'il sait agir, réagir et anticiper, évidemment, dans les différentes actions. Mais ce joueur, il faut qu'il joue, et en jouant avec d'autres joueurs qui sont autour de lui, il va continuer à s'améliorer. Donc on le voit ça dans un peu tous les clubs, et en première et en deuxième division. Moi, je ne parle là que du rugby professionnel, mais on les voit, et il y en a de plus en plus. Et ça, c'est très, très agréable. Cette concurrence, elle existe donc dans tous les clubs. On l'a vu à Toulouse, on le voit à Bordeaux, en fait, on le voit sur Paris aussi. Tu vois, c'est enfin, je parle de, j'ai donné des clubs, je vais pas faire de jaloux, mais c'est quelque chose qu'on perçoit qui n'existait pas forcément dans un passé récent.
On va dire sur les 8 dernières saisons avant l'arrivée justement de ces champions du monde, on va dire jusqu'en 2017, il y a eu cette période 2018-2017. D'ailleurs, l'équipe de France en a pâti parce qu'il y a une espèce de turnover avec 10 charnières différentes. On est passé à 100-110 mecs qu'on a testés pendant toutes ces années. Et ce n'était peut-être pas une question, je dirais, de génération, mais plutôt, c'était plutôt là, un problème qui était systémique, non ?
Eh bien, peut-être qu'il y a eu des prises de conscience, je pense. Et de ces prises de conscience, des moyens ont été donnés pour que l'accompagnement soit meilleur. Dans le nombre et la qualité. Je suis sûr que des efforts ont été faits dans tous les clubs. Dans des petites discussions que j'ai eues envers certains, ce sont des conditions aussi pour avoir dans les clubs des joueurs qui puissent être avec une culture club de son coin, de sa ville,
une identité,
une identité, tu vois, et ça, ça permet aussi de, donc les résultats ils sont aussi plus fréquents, les bons résultats, hein, quand tu arrives à sortir quelques joueurs supplémentaires, voilà, qui forment ton équipe professionnelle. Après, il y a toujours effectivement quelques mutations qui se font et quelques joueurs étrangers toujours. Il y a certains besoins, il y a des très bons joueurs qui amènent aussi sa culture à lui dans les échanges et aussi une image internationale, quoi, tu vois, donc c'est pas négligeable aussi.
Et l'importance justement du maillot, aussi de, tu parles justement des clubs de top 14, de Pro D2 et même des petits clubs, mais l'importance du maillot aussi de l'équipe de France, il y a eu aussi un désamour au profit peut-être d'une volonté de faire carrière dans son club avec l'explosion des salaires, l'explosion aussi des salaires des GIFs. Ça c'est encore une autre histoire et on pourra à mon avis en débattre pendant des heures, mais moi j'aimerais qu'on revienne sur un joueur en particulier, c'est le capitaine Anthony Gelon qui était capitaine de cette tournée en l'absence de Charles Olivon. On a dit que ce capitana était un peu un cadeau empoisonné, lui il l'a bonifié, force est de constater que voilà, avec une défaite encourageante et cette belle victoire qu'il y a eu face aux Australiens, est-ce qu'en raison de la blessure d'Olivon, selon toi, qui sera absent en novembre et pour une partie du tournoi Destination en 2022, il peut rester le capitaine des Bleus après une telle victoire dans l'hémisphère sud? Toi qui l'as, je l'ai dit, hein, il y a 30 ans, c'est pas anecdotique, mais c'est quand même un exploit de pouvoir gagner sur les terres australiennes. 30 ans que ça n'était pas arrivé, et ça peut marquer justement l'histoire d'un joueur comme Anthony Gelon.
Oui, mais ça marque toujours gagner dans l'hémisphère sud face aux Australiens, aux Néo-Zélandais, aux Springboks. C'est, C'est exceptionnel, ça arrive pas si souvent, ça arrive quand même, on l'a vu, mais quelquefois c'est compliqué. Ben écoute, je pense que le Toulonnais, ancien Bayonnais, c'est un joueur bon qui n'est plus capitaine parce que pour cause de blessures, mais quand il reviendra, c'est Fabien Galthié qui le décidera avec son staff. Mais c'est le capitaine, pour moi, c'est toujours le capitaine de l'équipe de France. Mais ce qu'a fait Jelonche, il a fait le job. Je l'ai vu fatigué par moments, où il paraissait fatigué, mais il était toujours autant actif. Et donc, je me disais, mais est-ce qu'il fait ça? C'est pour l'adversaire, pour faire croire que… Mais tu vois, et avec toujours ce côté, j'ai l'impression qu'il a comme un recul en permanence, tu vois. Et ça, c'est aussi un bon signe de quelqu'un qui maîtrise son jeu et qui maîtrise la rencontre, tu vois. Il y a pas d'énervement, jamais, tout. Et c'est pareil pour
Olivon.
Pour Olivon, hein, ce sont des joueurs qui ils ont une bonne maîtrise par rapport à l'événement. Ils prennent un certain recul par rapport à l'événement. C'est aussi ça le capitanat. Moi, je sais, je n'ai pas été souvent capitaine. Enfin, en club, oui, mais pas en équipe de France. Et je l'ai été, j'en suis très heureux. Et j'ai tellement voulu m'investir pour l'ensemble de l'équipe que je me suis perdu moi-même. Tu vois, en fait, je suis allé trop loin et c'était dommageable par rapport à son propre jeu. Eux, ils ont une maîtrise parce qu'ils jouent au mieux de ce qu'ils savent faire. Et en même temps, bon, mais ils ont la lucidité.
Philippe, avant de parler de ton expérience des tournées, parce que le palmarès c'est long, mais tu en as quelques-unes derrière toi, on va se projeter un petit peu sur le troisième test. Qui va jouer samedi, hein, donc 4 jours seulement entre les deux rencontres. Est-ce qu'on peut croire à une victoire française? Parce que contrairement à 1990, où vous aviez quand même perdu la série de tests, hein, vous aviez remporté le dernier des trois tests, là, l'équipe de France a l'opportunité de marquer l'histoire encore plus fortement en remportant ce dernier test. Est-ce qu'on peut croire à une victoire française avec toute la complexité, évidemment, que sera la composition de l'équipe avec des joueurs qui seront très fatigués. On le sait, 10 joueurs ont joué déjà les deux premiers tests. 5 joueurs sont rentrés dans cette équipe pour le deuxième test. Et on a encore une dizaine de joueurs qui n'ont joué encore aucune minute sur cette tournée.
Et je te dis, je te réponds en anglais, c'est « why not ?» Tu vois, c'est « why not ?» Parce qu'il y a un nouveau challenge là. Ouais. Tu vois, cette première défaite, je pense que ça a dû les marquer quelque part. Les Australiens, ils ont été égaux à eux-mêmes. Beaucoup d'animation, beaucoup de vitesse. En fait, c'est costaud, ça vient percuter dans les rucks. Même, il y a eu quelques sanctions aussi de l'autre côté. Mais ça fait partie du jeu. On ne va pas se faire des bisous sur le terrain.
C'était quand même moins violent qu'en 1990, Philippe, si tu me permets.
En 1990, le dernier test, il a été viril.
Raconte-nous.
Non, il a été viril et incorrect. Voilà, non, parce que, comme dirait Walter Spanghero, sur un terrain, il faut être viril, mais correct. Et là, il y avait des antécédents, il y avait des non-dits, il y avait des petites choses qui s'étaient passées. Je me souviens aussi, il y avait une deuxième ligne qui avait joué en France et il avait eu quelques paroles ou des écrits avant les tests qui étaient un peu désobligeants par rapport au rugby français. Donc, tout ça, à un moment donné, c'est remonté. Et comme on avait eu un premier test où on est passé très près, le deuxième, on a pris 15 points, je crois, d'entrée et donc on les a gardés pendant l'ensemble de la rencontre. Même si on est revenu dans cette rencontre, toi, on s'est loupé sur le début du match et il y a eu une préparation pour le troisième test, voilà, qui a été une belle préparation de Jacques Fourou, comme il savait le faire. Et donc, quand tu mélanges un petit peu tout, eh bien, tu sais, une petite étincelle, eh bien, ça a explosé. C'était parti, je pense, d'une touche, d'ailleurs, si je me souviens bien. C'était entre le talonneur de Wallaby et notre demi de mêlée, qui était le Narbonnais.
Richard Ast.
Non, de Narbonne, qui est. Bon, peu importe. Il y a déjà quand même pas mal d'années. Et donc, bon, ça s'était accroché. Et puis, c'est parti un petit peu plus. Ça a continué. Il y a eu Abdel qui était pris. Il y avait Fritz Simons avec le deuxième ligne. Et moi, j'arrivais tranquillement là pour peut-être les séparer et tout. Mais j'ai aucune idée de me battre ni quoi que ce soit. Et à un moment donné, ça repart entre les deux. Et moi, je suis derrière donc Fritz Simons. C'est Peter, je crois. J'ai un coup de folie, quoi, tu vois, sur le coup. J'ai un gauche qui part comme ça, tu vois, à l'instinct. Un coup de P, c'est un coup de trois quarts, tu vois, mais de trois quarts arrière, tu vois. Donc, tout en jouant des jeux de mots, c'est un coup qui n'est pas très joli, hein, il faut le dire. Et j'entends dans les tribunes un bruit, et puis ça recommence encore. En fait, je ne comprenais pas, mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. En fait, il y avait deux grands écrans, et ils remontraient que cette dernière action du coup de poing. Et là, je n'étais pas fier. Je peux te dire que j'ai rentré la tête entre les épaules. c'était pas joli du tout. Mais ça, c'est une des histoires de ce test match où il y a eu d'autres coups qui étaient...
Même pas un carton jaune, Philippe, ce jour-là, pour toi. En revanche, je crois que Abdelatif Benazi prend un carton rouge.
Ouais, Abdel, il prend un carton rouge avant, si tu veux. Et moi, j'ai une chance qui est juste extraordinaire parce qu'il n'y a rien. Tu vois, personne ne peut comprendre qui est rien. sur un match contre le Canada. J'ai pris un rouge que je n'aurais pas mérité, mais là. Là, j'aurais mérité, mais j'aurais mérité de prendre 3 mois, quoi, tu vois, sur le coup. C'est le plus mauvais coup que j'ai pris. Alors, parce que je me suis fait tirer par le maillot par moment, je n'ai pas été très gentil par rapport à ceux qui m'ont tiré le maillot. Tu vois, à l'instinct, il y a des coups qui sont partis aussi. Est arrivé un moment où j'ai calmé le jeu, j'ai dit terminé. Après, je vais peut-être, on va s'expliquer, des trucs comme ça. Mais c'était incroyable. Je ne supportais pas qu'il y ait des tirages de maillot. Là, il n'y avait pas eu de tirage de maillot. Hein. c'est, je pense, un peu l'histoire des matchs précédents. Voilà. Et une motivation un peu à l'extrême, peut-être aussi, tu sais, quand tu es un peu sur la maîtrise juste. Quoi, tu vois.
Bah, écoute, ça me fait penser juste à un truc, je vais la raconter. Je fais mon premier match contre le Racing à Jean-Bouin. On est en 99, mon premier match professionnel. Et je tombe sur un vieux roublard de 35 ans du Racing et je me redresse en fait. Et un tirage de maillot pareil, je mets une droite. Là, le mec me regarde, mais serein. Il me regarde, il fait « Qu'est-ce que tu fais, minot ?» Et il me met 3 nuclettes comme ça et il me dit « Va jouer au rugby ». Et là, j'ai pris, mais je ne me suis jamais rebattu d'ailleurs de ce moment-là où je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as branlé ? Tu t'es adressé, tu lui as mis une droite, le mec, je l'ai pareil de toi. Une droite qui part, mais de derrière, mais qui l'a effleuré. Le mec me regarde, il fait, qu'est-ce que tu fais ? 35 ans, et 2 nuquettes, vas-y, retourne sur. Il y a des moments où, comme tu dis, parfois, il y a des fils qui se touchent. Bon, bah, après, c'était pas sûr.
Dans les histoires comme ça, on fait un match à Gênes-Grenoble, et avec Alain Lorieux, avec qui je suis très copain, etc. Avec Alain, à un moment donné, il y a un accrochage, tu vois. Et bon, il est très grand, il est costaud et tout. Et à un moment donné, je veux lui mettre un coup, tu vois. Mais j'ai mis un coup de poussin, quoi. Il m'a regardé, il m'a fait. Bon, là, j'ai compris. Je lui ai dit, tu n'es pas invité, là, du tout.
Justement.
Il s'est foutu de moi, quoi.
Justement, Philippe, juste pour recentrer les débats, après, Raph, t'enchaîneras, mais tu as fait un paquet de tournées à travers le monde, hein, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Qu'est-ce que ça représente, une tournée pour un joueur ? C'est quand même très particulier parce qu'on vit un peu en autarcie, on est seul au monde, à l'autre bout du monde, souvent. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu découvres dans ces tournées ?
Ben écoute, nous, on avait des tournées qui étaient relativement longues par rapport à celles qui se font aujourd'hui. Voilà. Une différence, c'est que tu as une tournée de 3 semaines aujourd'hui, tu as 2 tests, peut-être 3. Avant, tu avais des tournées de 4 à 6 semaines avec 2 tests. Et exceptionnellement, tu pouvais avoir 3 tests. En Australie, justement, il y avait eu 3 tests en 90. En 94, au Canada, il y avait eu un test, plus 2 tests en Nouvelle-Zélande. On ne compte pas New Zealand B. Mais après, toutes les autres tournées, c'était uniquement 2 tests pour 4 semaines. Et donc, il y avait des matchs de province. On appelait ça les test matchs. Et tu avais les matchs des toasts, toi.
Des toasts.
Des toasts et des tests. Et en fait, parce que quand on se déplaçait, bon, il y avait des jeunes joueurs, il y avait pareil. Mais tout ça pour voir s'il y avait des joueurs qui étaient en capacité de pouvoir jouer en équipe de France. Et il y avait une équipe presque titulaire, je veux dire, et d'autres joueurs. Et après, bon, on s'entendait bien parce qu'il n'y avait pas de... On ne se chamaillait pas par rapport aux différentes rencontres ni rien. Il y a tout... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait toujours un très bon état d'esprit, alors que il y avait quand même comme une présélection avant de partir. Mais cette présélection, il fallait prouver que tu étais capable de jouer. Même si tu étais un titulaire du tournoi, mais il fallait quand même s'envoyer parce que sinon, c'est le joueur qui n'avait pas l'expérience ou moins d'expérience qui arrivait là, qui prenait la place. Hein. Voilà. Donc, c'est une concurrence qui était saine, mais il fallait faire ses preuves. Quoi. Mais il y avait des entraînements le matin en général. L'après-midi, on avait plutôt le côté d'aller visiter les pays. Alors, il y avait des entraînements aussi par moment, mais il y avait, par rapport à aujourd'hui, ce côté de rugby, de tourisme, mais de découverte des pays. Et c'était juste extraordinaire. Hein. En Nouvelle-Zélande, quand tu vas à Rotorua, que tu vas voir la culture eh bien, néo-zélandaise avec tout ce qu'il y a eu avant que les anglo-saxons qui arrivent, etc. Enfin, tu vois, on est allé manger à Rotorua des repas qui étaient chauffés dans la terre, etc. Enfin, avec toute cette culture-là, je trouve ça magnifique. Tu découvres autre chose, tu découvres d'autres cultures aussi. Qu'on appelle en Australie avec le, en fait il y a une baie qui est énorme, qui est magnifique. Je me souviens c'est du tourisme aussi, mais c'est dommage si on ne le vit pas à un moment, c'est de voir aussi le pays et la beauté du pays, le Harbour Bridge, l'opéra qui est magnifique, tu vois. On est allé faire un petit tour aussi, bon, en bord de mer. Tu as quelques petites stations balnéaires très sympas. On est allé à Randwick, ça s'entraînait. On est allé donc dans des villes en bord de mer. On a fait des entraînements comme ça, des délocalisés, et en même temps, tu découvres, voilà. Et ça. Ce sont des moments qui sont superbes parce que tu rencontres d'autres personnes, même si tu es dans ton équipe, tu lèves la tête, tu ouvres les yeux, les oreilles. Mais on avait l'occasion de le faire parce qu'on avait 2 tests sur la fin de tournée et on avait 2-3 semaines qui étaient des semaines où on faisait des matchs contre des provinces et où on allait justement à droite, à gauche. Et ça nous permettait de faire quelques petites visites. Voilà. Alors, on n'allait pas très loin, ce n'était pas non plus un séjour touristique. Hein. Mais il y avait les deux. En Afrique du Sud, on est allé au Kruger Park. En Australie, quand on était sur Brisbane, ben, on est allé dans des parcs, on était à... Bon, les kangourous, on n'en a pas tous les jours. Hein. En France, de voir des kangourous qui sont juste à côté de toi. Il y a ces petits moments-là, voilà, qui sont des flashs qui restent. Tu vois. Donc,
En fait, il y a des souvenirs d'images que nous, on voit à 10 000 kilomètres, mais en fait, il y a tous ces souvenirs. Moi, j'ai le souvenir d'une tournée. Alors, je n'ai pas fait ta carrière, hein, loin de là, mais je suis parti avec les moins de 21 en Australie. Et je pense qu'on parle de la même baie, que j'ai souvenir justement de l'opéra, j'ai souvenir de ce pont. On était avec, il y avait quand même une génération d'abrutis. On se souvient de quoi? Des hameçons qu'on se posait justement dans, dans l'avion, et puis des bières qu'on partageait sur le bord de la mer. En plus, on était dans un quartier qui était plutôt chaud, donc autant dire que là, tu lâchais les deuxièmes lignes et tous les cerveaux de la bande qui étaient partis à 8 heures du soir, on les retrouvait à 4 heures du mat. Et c'est ces gars-là, en fait, qui sont bons. Et moi, j'ai une question à te poser, c'est tu fais ta centième sélection justement lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande. C'est la mec du rugby. Je voulais savoir quel souvenir t'en gardes, parce que là, on est à la centième, donc le côté road trip touristique, il avait été fait sur les 99 autres sélections possibles en Nouvelle-Zélande. Mais la centième, est-ce qu'il y a une saveur particulière de la jouer là-bas?
La saveur, c'est que... On va en Nouvelle-Zélande, on va passer 4 semaines en Nouvelle-Zélande et on venait de passer 10 jours au Canada avec ce qui s'est passé au Canada.
Raconte-nous justement, parce que visiblement, tu as failli ne pas avoir cette centième sélection en Nouvelle-Zélande à cause
de... C'est dur d'avoir la centième sélection. On était parti juste après les phases finales, comment ça se fait, et il y a eu un match de province, et un test match immédiatement dans la semaine. Et on perd le test, je crois, de 17 à 12. Voilà, donc le Canada meilleur que nous ce jour-là. Et donc, je prends 2 cartons jaunes. Le premier carton jaune, il n'y a aucun problème. Toi, c'est sur un plaquage, je fais un plaquage offensif et je marche sur le joueur, je me relève. Toi, donc,
rien à dire.
Et franchement, volontaire ou pas, je ne me rappelle pas. Mais bon, je me suis dit, tu as fait une connerie, mais je l'accepte, toi, et carton jaune, il n'y a pas de problème. Le deuxième carton jaune, en fait, c'est, il me semble que c'est Sadour qui prend un ballon de volée après un coup de pied. Et moi, je viens au soutien de Jean-Luc Sadourny. Et j'ai un joueur qui me met les doigts dans les yeux, involontairement, très certainement, tout dans l'action, et je repousse le gars. Enfin, je repousse le gars, la main ouverte sur le visage. Il n'y a pas de coup de poing, il n'y a rien du tout. Et l'arbitre touche, il met le drapeau et il me met un carton jaune. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il y a eu, après le match, juste après le match, dans un camion où il y avait les vidéos, tout ça, avec l'arbitre, tout, on est allé voir les images, tout ça, et il y a donc les deux images, il y en a une, pas de problème, et l'autre, toi, il savait pas trop. Et en fait, c'était fait, hein, il y avait 2 cartons jaunes, donc le carton rouge, il était validé. Par contre, j'ai pris un match, toi, l'arbitre m'a mis le minimum par rapport à ce qui s'était passé. Il se trouve que, bon, alors, je n'ai pas fait le premier match en Nouvelle-Zélande, qui était un match de province, comme là, j'ai récupéré un peu. Parce que sur cette tournée-là, à part ce premier match que je n'ai pas joué, je crois que j'ai fait quasiment tous les matchs. Tu vois, mais j'étais heureux de faire tous les matchs parce que j'avais la colère, tu vois, mais envers moi-même de ce qui s'était passé. J'ai vécu un moment atroce dans les vestiaires, dans les douches, tout seul. C'est-à-dire que je me suis senti coupable de quelque chose. Alors, il y avait... c'était juste et injuste à la fois. Et c'était juste parce que à un moment donné tu mérites quelque chose, et ce carton rouge du deuxième carton jaune, il était plus gênant. Enfin, moi il me gênait beaucoup. Alors j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à toutes les personnes. C'est incroyable, je me suis senti mais d'une culpabilité, un coupable, toi, la terre elle te tombe dessus. Et dans l'avion entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, je crois avoir parlé à tous les joueurs. Peut-être pas, mais je pense avoir parlé à pas mal de joueurs, notamment à certains qui étaient un peu plus expérimentés, où j'ai demandé, en fait, le capitaine était d'accord, etc. Il y avait Olivier Roumat, il y avait Philippe Saint-André. Et en fait, la volonté, c'était que tous les joueurs qui avaient un peu plus d'expérience, où on était un groupe, on montre l'exemple sur le terrain et en dehors du terrain pendant toute la tournée en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est dans l'avion, ça s'est passé. Tu vois, et voilà, il n'y a pas de grandes phrases, il n'y a pas de... Tu vois. On a perdu le match au Canada. Je me fais expulser. Ce n'est pas terrible. On ne montre pas une belle image. Et voilà, c'était juste ces mots-là. Et tout le monde a joué le jeu. Si tu veux. Et on a passé une superbe tournée en Nouvelle-Zélande.
Tournée historique.
C'est historique. Avec en fait, on gagne deux fois les All Blacks. Donc, la centième et 101e pour ce qui concerne perso. Mais on gagne les All Blacks B aussi. Dans un match qui s'est joué où il y a eu du sang, excusez-moi, mais j'ai vu Philippe Benetton sortir du terrain dans un état, tu vois, je crois qu'Abdel, pareil, enfin, c'était un match, un des plus rudes, presque jamais joué, quoi, tu vois, qui n'était pas télévisé, qui était un match de rugby, quoi, tu vois, c'est un match de rugby aussi, des fois, il y a des choses comme ça. Et derrière, tu as les tests à jouer. On va faire la veille du test match. On va faire la mise en place sur un terrain, un terrain de rugby où il n'y a rien autour. Il n'y a même pas de tribune ni rien.
Comme il y en a beaucoup en Nouvelle-Zélande, des grandes plaines de jeux.
Oui, il y en a beaucoup en Nouvelle-Zélande. Personne, en fait. C'est à l'extérieur un peu de Auckland. Il y a quelques coteaux. Et en fait, il y a quelques nuages, des nuages blancs, mais évidemment. Et tu as quelques gouttes et un arc-en-ciel énorme, magnifique. Je crois qu'à un moment donné, je crois qu'on s'est tous arrêtés pour lever la tête et dire, il y a peut-être un signe. Il y a peut-être un signe, tu vois. C'est un moment, alors, l'entraînement, magnifique. Pas un ballon tombé, toi, de la coordination, de la communication. C'était une matinée, c'est peut-être une des plus belles matinées de veille de match que j'ai vécue par ce côté d'implication du groupe et la beauté qu'il y avait tout autour. Tu vois, tu pouvais faire Mané, il aurait fait un superbe tableau là-dessus avec le ballon de rugby.
Juste une question, Philippe, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est que je me dis que si tu ne chopes pas ce carton jaune, ce deuxième carton jaune qui amène le carton rouge, qui t'amène dans les douches à te remettre en question, qui t'amène dans l'avion aussi à prendre la parole et qui, en fait, derrière, t'amène en Nouvelle-Zélande à faire cette tournée, tu vois, c'est là aussi la responsabilité des anciens. Toi, ta centième sélection, 99e, où tu chopes ce carton rouge, peut-être c'est quand même fort, quand même, en fait, de se rendre compte aussi d'avoir la lucidité, la conscience de la responsabilité de l'ancien et de se dire, bah ouais, je vais parler à tout le monde. Et en fait, ça donne peut-être aussi un résultat et ces moments aussi magnifiques. Tu vois, c'est un extra lucide qui est intéressant. Alors, je ne l'explique pas.
On ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé.
Mais ça a forcément compté, Philippe. Enfin, ouais,
derrière, il y a un exploit. Je pense que dans l'histoire, ce qui s'est passé au Canada, quelque part, nous a servi à être rapidement dans la tournée. Peut-être qu'on n'y était pas au Canada encore dans la tournée, tu vois. Et là, c'est, ouais, c'est la conscience. Mais c'est dans cette prise de conscience, quand on prend tournée, à chaque fois, il y a des règles, tu vois, les droits, les devoirs, etc. Il y a des leaders. Mais là, c'était la même chose multipliée par deux ou trois, parce qu'il y avait eu cette rencontre du Canada qui avait fait mal un petit peu à tout le monde, quoi, tu vois. Et je pense qu'on était très, très concentrés. Dès les premiers matchs à Nouvelle-Zélande, les premiers matchs, ils ont été très durs. Hein. On ne les a pas gagnés, même. Je ne crois pas. Mais on a construit. Ça s'est construit petit à petit. Et ça me rappelle un peu l'Afrique du Sud aussi, dans des conditions différentes. En Afrique du Sud, la tournée, elle était dure sur les matchs de province. Il y a des joueurs qui découvraient le rugby international. Ils se sont régalés, ils nous ont fait marrer des histoires qu'ils nous racontaient aussi, qui se passaient sur le terrain, avec au final, par exemple, quand il y avait un match de province joué contre le Nord Transvaal, où il a donné son maillot de rugby au centre d'en face qu'il avait, qui était comme ça, il lui a dit, écoute, je suis désolé, mais tu donneras mon maillot à ton fils, quoi, tu vois, parce que... Bon, il était tellement costaud. Voilà, tu vois. Et bon, il y a aussi tout ce côté sympa de découverte de joueurs, de nouveaux joueurs. Et l'état d'esprit, il se construit si on a envie de communiquer aussi, tu vois. C'est comme la Coupe du Monde de 95, à un moment donné, comme on dit. Il y a toi, 15 jours de préparation dans les Pyrénées, etc. On part en Afrique du Sud, on reste 10 jours ensemble avant le premier match. Et à un moment donné, la pression monte, tout ça. Et moi, il y a Philippe Saint-André qui me disait tout le temps, bon, j'avais les cheveux longs. Tu vois,
comme à l'époque.
Ouais, comme à l'époque. et Philippe Saint-André dit, les trois quarts, on se rase. Oui. Non, tant que je serai avec vous, jamais. Parce qu'au tournoi déjà, tu vois, il en avait parlé au tournoi, sur le tournoi d'avant. Moi, je suis avec vous, jamais. Et là, on fait un repas, on reste les trois quarts encore à table, il n'y a plus personne. Et là, toi, on se raconte des histoires, tout ça, et je leur dis, Philippe, toi, c'est le jour, on y va. On y va, quoi. Ah ouais. Et là, on est allé dans la salle de vie, on a demandé d'avoir des rasoirs. Et là, on s'est rasé. Toi. Et je voyais Milou, il avait laissé juste la
crête.
Voilà, comme ça. Après, il avait laissé une boule. Toi. Et tout le monde, c'était à moi, je m'étais rasé aussi, mais je m'étais rasé en gardant un millimètre parce que je me suis dit, ça ne va pas repousser. Tout ça. Mais tout, en fait, c'était extraordinaire.
Philippe, en deux mots, avant que Raph parle de ton engagement, notamment avec les enfants de l'Oval, est-ce que finalement, tu es à l'origine du premier arbitrage vidéo avec ce carton rouge?
Ah, je sais pas, mais
parce que tu as reçu des excuses après de la Fédération internationale.
Ça s'est passé après le match. Ça s'est passé après le match dans le camion vidéo, etc., où on a regardé toutes les vidéos. Et des mois après, en fait, j'ai été blanchi de l'International Rugby Board. Voilà, donc. Bon, il y avait rien d'extraordinaire, mais ça a été. Alors, je sais pas pourquoi, parce que bon, moi j'avais purgé ma peine, quoi, hein, en fait, de match. En fait, je suppose qu'il y a dû avoir un recours d'une personne, hein, certainement, en disant voilà, le deuxième carton jaune n'y est pas. Mais c'était gentil de la part de l'International Rugby Board. Parce que bon, je ne suis pas dans les tablettes des cartons rouges. Donc. Mais bon, comme quoi, tu vois, on pense souvent au plaquage ou quoi que ce soit, le jeu, la passe, on parle de tout ça. Mais des fois, on va trop loin. Et je le reconnais, ce n'était pas souvent, mais il faut l'éliminer. Et heureusement, l'arbitrage est bon pour ça parce qu'ils sont très très à cheval sur la discipline et notamment sur la violence due par des coups, quoi. On a un sport qui est extraordinaire, c'est vrai, où on peut s'engager sans mettre ces mauvais coups, et quand on l'a fait, donc les excuses pour ceux qui ont reçu.
Une génération, et ça s'est estompé avec la mienne pour arriver aujourd'hui avec... Ouais.
C'est chouette, c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, c'est dans l'exceptionnel. C'est parce qu'il y a à un moment donné, je pense, un manque de maîtrise. Mais c'est une... on va arrêter avec ça, mais c'est vraiment exceptionnel aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel.
En fait, d'arriver à canaliser,
c'est super, hein.
Canaliser aussi, hein.
Ouais. Mais voilà, tout le monde arrive à mieux maîtriser ces moments où il pourrait y avoir de la violence, etc. Et ça reste sur l'agressivité. C'est la différence. L'agressivité, c'est l'engagement que tu mets sur les plaquages, sur les impacts dans les molles, etc. Tu vois, la violence, c'est un pet, c'est un mauvais pet. Et c'est tellement mieux. Mais en plus, tous les matchs sont télévisés, toi, et tu as de belles images, tout.
Et justement, on va parler de ton association parce que Raphaël, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Je vais lui donner la parole parce que Philippe a un très très bel engagement. Il a créé en 2003 une association qui s'appelle Les Enfants de l'Oval. Raphaël est aussi très très engagé sur le côté sociétal. Raph, c'est à toi.
Non, oui, c'est une association qui œuvre depuis 2003, comme tu l'as dit, en faveur des enfants déshérités. Moi, je voulais que tu nous racontes un peu la genèse de cette association et surtout vos actions, en fait, les actions que tu mènes et que vous menez au niveau de cette association.
Oui, mais c'est venu en fait d'amis, enfin dans le milieu professionnel rugbystique. J'ai rencontré pas mal de monde et du milieu professionnel. Nous, on en est venu à avoir une amitié et à se retrouver avec un club qui s'appelle le Club 111, et où on mange, on boit, on se raconte des histoires. Voilà. Et on va faire le 20e anniversaire, parce qu'on n'a pas pu le faire l'an dernier. On fait le 20e anniversaire dans Lot-et-Garonne au mois de septembre, là où on pourra bien s'amuser. Et du premier séminaire qui avait eu aussi lieu en Lot-et-Garonne, après on va dans toutes les régions, hein, là où il y a les différents membres de ce Club 111. Et du Club 111 est né les Enfants de l'Oval, parce que sur le premier séminaire, on avait dit, voilà, on participe à des associations, etc. Nous, on s'entend bien, on a envie de faire une action aussi. Et en fait, on a pris un papier, des crayons, et est sorti le rugby, évidemment, les jeunes, le milieu défavorisé, etc. Et donc, la France, l'étranger. Et en fait, en 2003, le premier centre a été créé au Maroc. Et le but, c'est d'aider, comme vous l'avez dit, des jeunes qui sont en mal de repères ou dans des milieux défavorisés. Et donc, on est aujourd'hui dans 7 pays. Il y a 12 centres. On a 1400 jeunes qui sont là à l'année, plusieurs jours par semaine. Et il y a à peu près entre 8 et 9 000 jeunes qui sont passés depuis... De 2003. Voilà. Donc, à ce jour, alors on est en France, à Viry-Châtillon. Voilà, il y a un club de rugby, mais nous, on a ce côté sociétal à côté du club de rugby. Et on est aussi donc, au Maroc, toujours. On est au Sénégal. En Côte d'Ivoire, on est en train de construire une maison de rugby en Côte d'Ivoire, voilà, à Trècheville. On est aussi au Mali et au Niger. Il y a des joueurs de rugby qui sont aujourd'hui les directeurs des centres de Niamey et de aussi Mopti. Et on a aussi des annexes. Tu vois, il y a les centres et puis il y a des annexes derrière. Et on est à Madagascar aussi. Voilà, à Madagascar, il y a 3 centres autour de Tananarive. Et on a fait, alors, l'accompagnement, il est dans la scolarité. Et alors, le but, c'est venez faire du rugby, venez prendre du plaisir. Et de ces moments-là, eh bien, on commence avec les droits et les devoirs, tu vois, de la vie. Et de ces droits et les devoirs, il y a aussi l'instruction et l'accompagnement donc, sur la scolarité. Et puis, il y a, alors, en France, on a les goûters, mais dans d'autres pays, et notamment Niger, Mali et Madagascar, quoi. C'est, où c'est de plus en plus pauvre, eh bien, il y a la nutrition et il y a la santé. Et, donc, il y a cet accompagnement aussi. Et ce sont alors, il y a 45% de filles, 55% de garçons. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait moins de filles auparavant et petit à petit, il y en a de plus en plus. Et on va faire de plus en plus d'actions justement pour accompagner un petit peu tout le monde et oublier de faire penser que le rugby, c'est que pour les garçons. Tu vois. Et on a fait aussi une académie des enfants de l'Oval, avec Pierre Villepreux, avec Philippe, enfin, d'autres éducateurs qui entraînent et qui forment les éducateurs sportifs des différents centres. Et donc, tous les ans, il y a des missions qui sont avec cette académie qui sont faites dans les différents pays. Et on a tous les 3 ans un séminaire aussi avec l'ensemble des directeurs des centres de formation. Voilà. Et puis, on récolte toutes les informations des différents centres, des différents pays qu'on met feuille de route et qu'on fait partager à l'ensemble des personnes qui cotisent et qui font des dons. Voilà. Alors, s'il y en a qui veulent faire des dons, juste si je me permets, ça s'appelle Les Enfants de l'Oval et on a un site qui s'appelle, enfin, c'est Enfants de l'Oval, enfants au pluriel, enfantsdeloval.org. Voilà.
Donc, justement, on voulait en parler avec Raph pour donner un coup de boost. Comment est financée l'association? Bon, on a compris évidemment avec du mécénat, mais je crois que vous organisez aussi quelques événements. Là, tu m'as envoyé, Philippe, il y a quelques jours, des photos d'un événement à Clermont.
Clermont-l'Hérault.
Voilà, il y a tout un tas d'actions autour de cette association qui sont mises en œuvre aussi.
Et oui, avec les différents membres qui sont sur Paris et dans la province, eh bien, il y a des actions qui sont menées. Alors là, on était à Clermont-Lérault sur la dernière, le week-end dernier, où il y a eu une table ovale qui a été organisée avec le club de rugby local et les entreprises. Et il y a eu un ventriglisse aussi pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, et avec les différentes associations, avec donc tous les jeunes et les moins jeunes qui pouvaient y aller. Et on a fait 2 championnats du monde. Voilà, championnat du monde des adultes et des plus jeunes. Ça, c'était le soir sur 1 heure. Voilà. Et on récolte des fonds par le privé essentiellement en faisant des actions comme ça, mais aussi avec des entreprises qui nous aident afin de pouvoir s'occuper, qu'on puisse s'occuper de tous ces jeunes. On a une très belle soirée annuelle, malheureusement. L'an dernier, on n'a pas pu la faire, ni il y a 2 ans, au Grand Hôtel Opéra de Paris. Il y a une très belle vente aux enchères, plus bon, une soirée avec des artistes qui viennent aussi pour animer. Il y a Francis Cabrel qui a eu la gentillesse de venir 2 fois. C'est quelqu'un qui aime le rugby et qui a été sensibilisé. Il était à La Rochelle hier soir au Francofolie. Donc, c'est voilà. Il y a aussi de la gentillesse et vraiment des gens qui sont extraordinaires, qui nous aident. Et après, il peut y avoir différentes actions menées un petit peu partout, tu vois. Mais on a à Paris aussi, avec le club de Suresnes, tous les ans. On n'a pas pu le faire cette année, tu vois. Au club de Suresnes, on fait un tournoi de rugby à 7, mixte. On se régale, on le fait le week-end de la finale. T'as, bon, le côté buvette, banda, etc. Fait que il faut que ce soit sympa.
C'est très rugby.
Ouais, c'est très rugby. La convivialité, elle doit être mise en avant, quoi.
Je te fais une proposition. Tu sais, je fais des conférences en entreprise aussi dans le monde du sport. Et bien, voilà, si un soir, tu veux organiser à Suresnes ou ailleurs, je viendrai bien bénévolement faire une intervention pour les chefs d'entreprise du privé. S'il y a un endroit où tu peux réunir du monde, je viendrai avec grand plaisir raconter un peu. Comme tu nous as raconté ton histoire et que tu nous as offert de ton temps sur le podcast-là, ben moi, je t'offrirai de mon temps parce que pour une légende comme toi qui m'a fait aimer le rugby, ben voilà, et pour l'association, d'habitude, je facture pas mal, comme tu l'imagines. Et ben
merci beaucoup, là. C'est superbe. Ouais.
Moi, je peux venir pour faire la vaisselle si vous voulez, mais ça va intéresser personne.
Bon, Philippe, écoute, je voulais vraiment te remercier parce que c'est franchement, comme je l'ai dit, hein, c'est pas un mensonge. J'ai eu quelques idoles dans ma jeunesse. Tu étais dans ma chambre, justement, à côté de mes posters de mobilette. Donc, je tenais à te remercier d'avoir accepté. Mon invitation, oui, quand je parle de mobilette, ça ne rajeunit pas. J'en ai 40, j'en ai un peu plus. Mais je pense qu'avec vous qui t'a envoyé l'invitation, merci d'avoir accepté. Parce que ça fait du bien aussi d'avoir des retours aussi des anciens. On pourrait t'écouter pendant des heures, parce que je t'ai même pas posé la question de savoir sur ta première sélection en 84, comment ça s'est passé justement cette tournée en Nouvelle-Zélande. J'avais tellement de questions, mais qu'on est bien obligé à un moment de pouvoir cadrer.
Alors, juste 2 secondes. Premier match à Nouvelle-Zélande, c'est la peur. J'ai eu peur. Mais alors, j'ai eu peur dans la semaine qui précédait ce match. Et je suis, alors, j'avais Bernard Viviès qui était de la tournée, j'avais du Broca avec qui je jouais, donc, 22 ans. C'était ma première fois que je partais en tournée. Et à Nouvelle-Zélande, cet éblouissement qu'il y a le matin quand tu te lèves, tu vois, on était dans le sud de l'île du Nord. Et dans dans cette semaine-là, j'ai passé beaucoup de temps à côté de Bernard Viviès, de ceux que je connaissais le plus, pour me rassurer. Tu vois, et ils m'ont fait le plus grand bien. Mais jusqu'au match, quand même, une appréhension comme jamais. C'est incroyable. Et au premier ballon, bah, c'est parti, c'est magique, tu vois. C'est magique. Alors, je pense que le fait des relations que j'ai eues avec les autres joueurs m'ont fait beaucoup de bien, finalement, tu vois. Mais ce sont des choses que je n'avais pas connues. Un petit peu quand même, si oui, sur le premier match du tournoi. Alors, parce que le premier match international, c'est en Roumanie, je ne m'en rappelle pas. Je ne me souviens pas.
C'est énorme.
Il se trouve que j'ai été KO, je me suis réveillé à 10 heures du soir. Quand on parle de commotion et tout.
Ah ouais.
10 heures, je me suis réveillé le soir. Toi. Alors, les joueurs, Malek, Oken, ils m'ont raconté des bêtises et des bêtises. J'ai marché jusque dans l'avion le lendemain et tout. J'ai dit, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je leur disais, ah, quelle bande de
c'est énorme.
Non, mais c'était très c'est sympa, quoi. Tu vois,
en, voilà. une minute, Philippe, pour pas finir sur une commotion, mais juste, ouais. Ta dernière, juste ça, juste une anecdote de ta dernière sélection, et on arrête là-dessus après.
La dernière sélection.
Ouais,
la dernière sélection, c'est une troisième place à la Coupe du Monde
95
contre l'Angleterre. Donc, troisième place gagnée. On ne gagnait pas contre l'Angleterre. Là, sur les années 90, c'était dur. Là, ils avaient une drôle d'équipe. Enfin, ils ont toujours des grosses équipes. Et on gagne. On gagne. Et là, je vois le trois quarts centre que j'avais en face. Will Carling, qui me voit, il me dit « On change les maillots ». On fait un tour, on se voit dans les vestiaires ou dans le couloir. Ok. Et donc, on fait le tour. Et après, j'arrive dans les vestiaires, enfin, dans le couloir. Et là, il y a Will qui m'attendait. Capitaine des Anglais, toi, fait respect aussi. Après, on a joué l'un contre l'autre, Saracens, Harlequins. On se faisait des 4 deb sans ballon, tu vois, quand il y avait des arrêts de jeu, je te promets. Ouais. En fait, c'est comme ça, tu vois. Sauf qu'il y a un respect aussi. Tu vois, et ce côté de Cap Deb, ça m'a marqué. Tu vois. Mais alors là, dans le couloir, donc on échange les maillots et je lui dis, bon, sorry, good game. Parce qu'il avait l'habitude de nous dire ça là, pendant quelques années. Et j'ai l'impression qu'il n'entend pas, tu vois. Et donc, je lui dis, sorry, good game. Et je lui donne un maillot. Donc il a rigolé. Mais... Parce qu'il avait la... Alors, il le faisait pas pour narguer. C'est le côté gentleman anglais, quoi, tu vois. Et comme je vous ai dit, on ne gagnait pas trop les matchs précédemment. Voilà. En fait, il a mon dernier maillot. Et moi, j'ai pas son dernier maillot, mais son maillot anglais, il représente quelque chose pour moi. Voilà, voilà. Malheureusement, il a perdu ce maillot, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, Will, je l'ai eu pendant qu'il y a eu le confinement. On avait fait avec les Zooms, là, tout ça, là, on avait échangé, et c'est juste merveilleux. Et le rugby, Raphaël, c'est ça, c'est bon. Quand tu joues l'un contre l'autre, ben il faut être meilleur que l'autre, etc. Tu vois, avec, si possible, le plus grand des respects. On n'a pas été nobody is perfect, comme pour le deuxième ligne australien. John Hills, c'est son surnom, tu vois, nobody, parce que c'est le genre de parfait, lui, tu vois. Mais ses copains l'appellent le nickname nobody. Nobody is perfect. Mais ouais, c'est comme ça. Et en fait, c'est dur d'être parfait. Il faut qu'on soit soi-même. Tu vois, je pense que dans tout, partout où on va, et ce qu'il y a d'extraordinaire au rugby, juste pour finir, c'est ces relations que l'on a. Or, en France, on en a des matchs qu'on a fait les uns contre les autres. Même aujourd'hui, je garde une relation avec des jeunes joueurs. Tu vois, parce que ça me fait plaisir de leur envoyer quelques messages. Mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Si, je crois que je sais pourquoi je le fais. C'est parce que Peter Pam, Jean Gachassin, il m'a envoyé des messages et il a envoyé des messages à d'autres joueurs quand on jouait des matchs internationaux. Ça m'a marqué. Alors, ce n'était pas des SMS qu'il envoyait. Il envoyait des fax, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de SMS. Donc, c'est un peu plus facile pour nous. Et cette transmission, elle est importante aussi, tu vois. Mais quand tu vas en Nouvelle-Zélande, que tu es accueilli par Andy Haddon, par Murray Maxted, tu vois, ils ont joué en France, ils connaissent un peu la France aussi. Mais c'est extraordinaire, tu vois. Ils peuvent venir en France, ils seront accueillis de la même manière. Et c'est ça aussi. C'est le sport, le rugby. Je ne sais pas, dans les autres sports, si c'est toujours comme ça. Mais il faut que ce soit comme ça parce que le terrain, c'est une chose. Et après, l'humain, c'est aussi de partager les cultures, les histoires, le partager et découvrir aussi les différents pays. Et c'est vrai qu'on en a bien profité quand même. Je crois que j'ai fait 13 ou 14 tournées.
Ce qui est énorme, lorsque tout ce que tu racontes, en fait, c'est qu'il n'y a pas un quart du tiers de la moitié où tu nous racontes une de tes actions, où tu nous racontes un truc. Tu nous as raconté des bagarres, tu nous as raconté l'après, l'avant, les voyages, les paysages et les potes que tu t'es fait à travers le monde. Et je pense que cette transmission pour les jeunes, et je pense que c'est d'ailleurs les souvenirs qui sont en train de se créer aussi là-bas, certes dans la défaite, mais aussi dans la victoire. C'est tout le voyage. C'est pas le point final de la victoire à la 80e. C'est tout ce qui se passe en fait pour en arriver à la 80e. Et c'est tout ce que tu racontes.
Il y a un peu tout. Et t'as raison.
Un grand, grand merci, Philippe, vraiment pour ta disponibilité pour aller dans le sens de Raphaël. Je tiens juste à raconter que parfois, pour caler une émission avec un jeune joueur, faut passer par l'agent image, faut passer par l'agent du club, faut passer par l'attaché de presse. Ouais. Et des fois, on nous répond même pas. Quand on appelle Philippe Sella, qui a 3 Coupes du Monde, qui a 111 sélections, qui a une 3e place en Afrique du Sud en 95, qui a gagné la Coupe d'Angleterre, c'est un grand oui avec des smileys parce qu'il était heureux de venir raconter, de venir partager, de venir transmettre comme il vient de le faire. Et je crois que la transmission, elle est importante aussi dans ce cadre-là. Et il faut que des garçons comme Philippe continuent de transmettre pour que justement la nouvelle génération du rugby ne perde pas le sel de ce sport. N'est-ce pas, Raphaël?
Et même à son âge, ouais. Il faut encore nous faire croire qu'il y a des embouteillages à âge. Donc, il a toujours
écoute, il a toujours Raph, les... ouais. Raph, je suis un cinquantenaire encore.
Je sais, jusqu'à... Oui, je sais, mais dans ma tête, t'es un vingtenaire et un trentenaire, tu vois. Dans ma
tête, tu restes éternel. Je suis un cinquantenaire, mais je n'en ai pas pour longtemps quand même. Il me reste 6 mois.
Bah, en tout cas, merci beaucoup, Philippe. Franchement, c'était un plaisir. Je pense que tous ceux et celles qui vont écouter cette émission vont prendre la main, un plaisir à voyager avec toi et à fermer les yeux et à se rendre compte qu'il n'y a peut-être rien de plus beau en fait qu'un rainbow en Nouvelle-Zélande.
Ah, ouais. C'est beau le rainbow là-bas. Ouais. C'était plus qu'éblouissant, tu vois.